6-9 du week-end sur France Inter.
Il est 7h51. Patricia Martin, vous recevez Thierry Illouz, avocat et romancier, pour son livre « Même les monstres ». Le livre paraît aux éditions L'Iconoclaste.
Oui, effectivement. Bonjour Thierry Illouz.
Bonjour.
Et avocat pénaliste, hein, c'est un métier que vous exercez depuis une trentaine d'années avec passion. Vous défendez des délinquants, des criminels, ceux qu'on appelle des monstres. Et fort de votre expérience et aussi de votre humanité, vous écrivez que le monstre en fait n'existe pas, que le mot même de monstre ne nomme pas, qu'il ne désigne pas.
Oui, effectivement, c'est un mot qui a du succès, qui a une sorte de fortune médiatique et qu'on emploie souvent. Et pourtant, moi, c'est un mot que je refuse, que je récuse. C'est le mot de la désignation, d'une désignation très artificielle. C'est-à-dire que c'est une case dans laquelle on met des gens que l'on estime incurables, infréquentables et indéfendables. Bien évidemment, ce que je refuse, je pense que la défense, elle est universelle.
Le boulot d'un avocat, c'est de comprendre les dérives.
C'est comprendre ce qui est arrivé, je dirais. C'est-à-dire comment c'est arrivé, ce qui est arrivé, ce qui se passe dans la vie des gens, dans la vie de quelqu'un qui se trouve effectivement à un moment donné dans une situation de dérive, de déviance, et qu'il faut absolument, qu'il y a urgence à entendre, à comprendre.
Mais je précise qu'il n'y a pas d'angélisme pour autant dans vos propos, c'est-à-dire que vous racontez bien qu'il y a du dégoût, par exemple, à la lecture des faits qui sont reprochés aux personnes que vous défendez. Hein.
Oui, bien sûr, il y a une sorte de malentendu à penser que la défense, ce serait une sorte de complaisance à l'égard des actes. Jamais. Jamais. Et certainement pas de naïveté. Au contraire. Je pense que c'est par cette lucidité, cette extra-lucidité qu'il faut avoir à l'égard des actes et des gens, qu'on peut justement rétablir et protéger.
Thierry Illouz, votre histoire rejoint celle de ceux que vous défendez quand il s'agit de jeunes des cités, parce que vous êtes vous-même un enfant des cités, rapatrié d'Algérie, vos parents étaient...
Oui, effectivement, il y avait ces cités qu'on avait construites un peu à la hâte, et j'ai vécu là, j'ai compris quelque chose là, c'est aussi ce que je raconte, c'est comment, effectivement, par l'expérience, par le vécu, par la chair, ce que je résume un peu comme ça, on comprend les choses et on comprend les gens. J'ai croisé aussi dans cette cité les gens que après j'ai dû défendre parfois, et je crois que c'est une expérience qui est tout à fait salutaire, tout à fait utile. On devrait tous avoir ce logiciel.
Vous ne l'avez peut-être pas connu directement, mais en tout cas vous l'avez croisé souvent, c'est la pauvreté. Et vous dites qu'au fond, c'est elle seule qui divise le monde, que tout le reste, quand on parle de communautarisme, quand on parle d'identité, au fond c'est de la foutaise.
Voilà, absolument. Je suis absolument convaincu que la véritable division, c'est le vrai scandale, c'est la pauvreté. Et je crois qu'effectivement, à partir de là, tous les phénomènes qu'on essaye de recenser, c'est-à-dire les dérives religieuses, les dérives, les trafics, les dérèglements, je crois que tout ça procède de cette séparation entre les gens et de cette séparation radicale qu'est la pauvreté.
J'ai pensé à vous vendredi matin en écoutant Robert Badinter, qui était l'invité de France Inter, qui donc dans un livre évoque sa grand-mère tant aimée. Votre grand-mère à vous, elle s'appelait Tita, une grand-mère inouïe qui parlait l'arabe, le français, l'espagnol, qui cuisinait un couscous chaque 11 novembre. Si ça, c'est pas un symbole de réconciliation.
Oui, voilà, c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est-à-dire que ce personnage fondateur portait pour moi effectivement tous les éléments de la question de l'identité, c'est-à-dire que l'identité c'est éminemment composite. C'est-à-dire que ma grand-mère était porteuse de toutes ces cultures, de ces langues, mais aussi d'un amour de la France indéfectible, effectivement. C'est pour ça que ce raccourci saisissant du couscous qu'elle organisait tous les 11 novembre parce que son mari avait été un poilu, et c'est quelque chose de saisissant qui en dit long.
Et c'est cette réconciliation-là que vous cherchez, que vous continuez de chercher au fil des années dans les salles d'audience?
Voilà, toujours. Je dis même dans ce livre qu'à un moment donné, j'ai envie d'appeler ma grand-mère pour m'assister quand je parle de cette réconciliation. Parce que je pense qu'il y a un pont, il y a un pont entre chacun, et que cette identité, elle fait ça. L'identité, c'est pas ce qui sépare. C'est justement ces points de contact entre les uns et les autres. Et donc, j'attends ça, et j'attends cette réconciliation au sens fort, pas naïf, pas léger, profond.
Est-ce que c'est, vous pensez que rendre la justice d'une manière dépassionnée, c'est-à-dire à hauteur d'homme, je sais bien que c'est pas vous qui rendez la justice, vous n'êtes pas juge, vous êtes avocat, mais est-ce que c'est possible ?
Je crois qu'il le faut, en tout cas. C'est vrai que la défense, c'est peut-être cette façon de porter la parole qui devrait conduire à cela. Moi, je l'attends. J'attends qu'on voit des hommes. C'est pour ça que l'idée du monstre m'est insupportable. J'attends qu'on voit des hommes et qu'on défende à hauteur d'homme. C'est ce que j'essaie. Il y a chez chacun, il y a ce point commun, justement, ce patrimoine commun entre les uns et les autres, qui est l'humanité.
Et est-ce que la punition, la prison notamment, a une valeur réparatrice ?
Pour moi, j'ai beaucoup de mal avec cette idée. Je crois très peu aux vertus de la prison. Au contraire, je pense qu'effectivement, ça répond à une sorte d'imaginaire du châtiment, de souhait collectif, inconscient, lointain.
Ça rassure.
Ça rassure, exactement. Mais au fond, quand on le considère de près, quand on voit ce qu'est la prison, parce que forcément, j'ai fréquenté...
Là, vous racontez votre première... la première fois que vous êtes allé en prison visiter un client.
Enfin, c'est un moment terrible. C'est un moment inoubliable. Je pense qu'effectivement, le problème, c'est qu'on parle beaucoup de la prison et que très peu de gens savent ce qu'est une prison.
Mais pourtant, il faut bien une sanction.
Alors, effectivement, je ne suis pas dans la naïveté à considérer qu'on ne doit pas sanctionner. Mais la prison, c'est quelque chose qui ne profite pas. La sanction, ça doit profiter à la société. C'est-à-dire que ça doit aider à la réparation, mais aussi à la réinsertion et aussi à la protection de la société. La prison ne fait pas ça. Au contraire, c'est un système de reproduction, voire de la délinquance.
Vous avez l'occasion d'en parler de ça avec votre père qui était policier. Donc
oui,
évidemment,
voilà,
c'est un grand écart entre vos deux.
C'est un grand écart. J'ai commencé à exercer après la mort de mon père, mais c'est vrai qu'il est, au moins, il y a toujours ce dialogue entre lui et sans doute son rapport très fort à la loi, que je ne dénie pas, mais il y a effectivement chez moi peut-être quelque chose à voir de cette querelle du père et du fils. Qui dans mon métier, au cœur de mon métier, cette discussion peut-être que j'ai au-delà de tout ce temps avec mon père.
Vous parlez aussi dans ce livre de la robe de l'avocat. Vous aviez d'ailleurs écrit un texte qui avait été joué au Théâtre du Rond-Point par François Morel. Cette troisième robe, cette fameuse troisième robe qui vaut mieux ne jamais acquérir pour un avocat.
Oui, alors en fait, c'est ça. On dit qu'on nous enterre dans notre troisième robe. Donc voilà, moi j'en suis à la deuxième.
Et ce sont les histoires de monstres qui usent le tissu des robes ?
Je crois qu'il y a quelque chose de cela. Effectivement, il y a cette incompréhension parfois autour de ce qu'est un délinquant. Il y a quelque chose qui fatigue au sens métaphysique du terme. Et donc parfois on se bat avec tout ça. On a envie un peu de raccrocher la robe.
De raccrocher la robe. Et quelquefois, on imagine que les larmes n'étaient pas loin quand vous avez écrit ce texte.
C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un moment, je l'ai écrit en plus à un moment un peu difficile, et voilà, il y a quelque chose de cette émotion, je trouve que c'est bien finalement pour parler, pour essayer de comprendre le monde et peut-être aussi la délinquance.
Même les monstres, c'est donc paru aux éditions de l'Iconoclaste. Merci Thierry Hillouze.
Merci à vous.
Merci à tous les deux. Dans une petite poignée de secondes, il sera 8h.